voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Alain Corbin. Ce soir, l'atelier de l'historien.
Bonsoir Alain Corbin.
Bonsoir.
Les jours précédents, nous avons pu entendre que tous vos travaux, opèrent des déplacements par rapport à ce que font les historiens qui vous sont contemporains ou ceux qui sont vos aînés. Vos objets se situent en dehors du champ politique. Vous n'êtes pas favorable à l'histoire d'un corps social pris dans sa masse. Vous mettez en garde les historiens et vous faites attention à ne pas commettre d'anachronisme psychologique. Alors ce soir, c'est sur tous ces credos que j'aimerais vous interroger. Et je commencerai par le mouvement de recul que vous inspire l'idée selon laquelle l'histoire doit jouer et remplir un rôle civique.
Oui, c'est mon collègue Antoine Pro, bien connu, qui m'a dit un jour que je n'avais pas l'esprit civique en tant qu'historien parce que j'écrivais pour me faire plaisir et non pas dans le cadre d'une mission civique. Alors je l'approuve totalement. Je n'ai pas travaillé dans une perspective civique. Je n'ai jamais écrit de manuel d'histoire. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais je n'ai jamais écrit de manuel d'histoire pour les élèves, justement parce que j'en doute, ai-je eu peur d'être obligé en quelque sorte de remplir une mission civique. Voilà. Et ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est de voyager dans le temps. Ce n'est pas de remplir une mission.
Pourtant, on a dû souvent vous solliciter pour écrire.
Oh non, je n'ai pas été très très sollicité parce qu'on savait que si je faisais quelque chose, ce ne serait peut-être pas tout à fait dans les normes de l'enseignement. Alors par contre, c'est dans l'enseignement des manuels, quoi, tel qu'il transparaît dans les manuels. Donc je n'ai pas été très sollicité.
Une autre ligne que vous vous fixez, c'est d'éviter la condescendance et le dolorisme.
Oui, alors ça m'avait beaucoup frappé au début de ma carrière. C'est que j'avais l'impression que l'histoire telle qu'elle était faite, c'était un peu comme ces vieilles voitures de mon enfance dans lesquelles il y avait souvent un volant qui tirait d'un côté, si vous voulez, qui tirait à gauche, c'était dans les vieilles voitures. Or, j'avais l'impression que l'histoire telle qu'elle était faite tirait vers le dolorisme. Ça pour toute une série de raisons, d'ailleurs. Hein. D'abord, la respectabilité du chercheur, hein, parce que la douleur, c'est très respectable. Une tradition catholique. La douleur rédemptrice, n'oublions pas la rédemption par le Christ, hein, donc tout ça se mélangeait, donc parce que même sans que l'historien s'en rende compte, mais Jean-Pierre Péter a bien montré cela dans ses histoires de la douleur qu'il a écrites, c'est que c'est respectable, c'est facile aussi de traiter parce que la douleur laisse beaucoup de traces. Laisse beaucoup de documents, hein, soit extérieurs, description des pauvres, des hôpitaux, etc., soit intérieurs, celui qui souffre a le temps de s'exprimer, celui qui a du plaisir n'en parle pas, ou très peu, il n'en a pas trop besoin.
Il ne l'écrit pas.
C'est très net dans la relation amoureuse. C'est la plainte. C'est la rupture, c'est etc. Mais celui qui a passé une nuit merveilleuse, le lendemain matin, il n'a pas envie de prendre la plume. Voilà. Alors donc, je trouvais que le plaisir était négligé du point de vue d'histoire, qu'on a appelé un temps des mentalités psychologiques, représentations, etc. Enfin, que le plaisir était négligé par rapport à la douleur pour toutes ces raisons. Et que c'est puisque le volant tournait à gauche, si vous voulez, je trouvais qu'il fallait résister et essayer de le faire tourner un petit peu à droite. Voilà. C'est dans cette perspective que j'ai écrit un livre sur la sexualité conjugale durant la première moitié du 19e siècle, l'harmonie des plaisirs, pour bien montrer que pour les médecins de ce temps, les médecins de l'école clinique, notamment de Paris, le plaisir conjugal était un but et n'avait rien de conspué par ces sommités, au contraire. Quoi, voilà.
Une de vos singularités méthodologiques, Alain Corbin, c'est l'utilisation du roman, de la poésie, la référence au tableau aussi.
Effectivement. Surtout après avoir passé 40 ans dans les archives départementales et municipales, j'avais un peu envie de rentrer chez moi, si vous voulez, pour faire du travail plus différent. Et par conséquent, d'aller à la bibliothèque voisine, ce qui m'amène à ce que vous me demandez. C'est-à-dire, peut-on se servir de la littérature? Alors là, j'aurais des remarques peut-être un peu mitigées. C'est-à-dire, je ne crois pas, par exemple, que la littérature romanesque est preuve de pratique. J'irai plus loin. La littérature naturaliste, qui se prétendait, elle, refléter la réalité de la société, n'est pas totalement fiable. Je pense à Zola, évidemment. Elle n'est pas totalement fiable. Et je prendrai une expression de Jean-Marie Goulmot, qui est un grand professeur de littérature, qui demande de se méfier à propos de cette littérature naturaliste, des tactiques d'illusion du vrai. C'est quelque chose de très profond, à mon sens. Tactiques d'illusion du vrai. Zola devait chercher cela, bien entendu. Je prends l'exemple du ventre de Paris, où il y a beaucoup de questions d'odeur, etc. Il énumère, il analyse l'odeur des fromages et des différents produits des Halles, hein, dans le ventre de Paris. Or, le professeur qui l'a passé, c'est Toulouse, je crois, qui l'a passé à son olfactomètre, a montré qu'il sentait très mal. Très, très mal. Donc, vous voyez, il parle quelque chose qui est d'imagination en grande partie. Alors, en revanche, là, c'est un objet de discussion actuel. Hein. Oui. C'est que je trouve que la poésie est une source littéraire plus fiable que la littérature romanesque. Parce que quand, dans un poème assez court, je ne parle pas des grandes œuvres de dans Lamartine, 50 pages, Jocelyn ou La Chute d'un ange, non. Mais ces petits poèmes ne peuvent exister que si l'auteur a ressenti une émotion dont il parle. C'est difficile. C'est... Alors, je prendrai quand même un exemple pour vous expliquer. Paul Valéry a écrit un poème sur le bain, les plaisirs du bain, de se baigner, bien connu, c'est un classique. Et quand je travaillais sur le territoire du vide, c'est-à-dire l'époque où on a commencé à se baigner dans la mer, on n'a pas commencé à se baigner pour le plaisir, on a commencé à se baigner pour se soigner, hein, dans une visée thérapeutique. Le docteur Russell envoyait ses clients, si je puis dire, on disait clients plus que patients, hein, jusque vers 1960, à Brighton, c'était pour se soigner dans des eaux à 12 ou 13 degrés. Hein, donc, le plaisir du bain est peut-être faible. Mais, il se trouve que vers 1760, je ne sais plus la date en tête, j'avais lu un texte de tout petit poème d'un Stolberg, un Allemand, intitulé « Le bain », dans lequel il dit « Je me suis plongé », alors qu'on ne se plongeait pas pour le plaisir, « Je me suis plongé dans la mer, c'est agréable, etc. » Et il développe cela, et c'est Valéry, si vous voulez. Hein, c'est détailler les plaisirs. Alors, c'est quand même une source.
Mais c'est une personne.
Ben oui, mais j'ai cherché le moment où quelqu'un allait dire qu'il avait aimé se baigner dans la mer. Parce que les aristocrates britanniques se baignaient plutôt dans les rivières, dans sur leur propriété, les rivières. Il y avait dans les ports des hommes du peuple en Méditerranée qui se plongeaient, mais ils n'ont pas laissé à ma connaissance beaucoup de textes. Mais voilà un aristocrate poète de XVIIIe siècle qui dit brutalement, c'est il y a un plaisir. Voilà. Alors, les plages étaient développées, encore une fois, à cette époque, mais c'était des plages thérapeutiques, essentiellement, ou des lieux où l'homme pouvait exercer sa virilité en nageant très fortement sous le regard des femmes qui étaient dans les plages à côté, d'ailleurs, ou qui regardaient des gens qui regardaient ça avec leurs lunettes. Hein. Ainsi, le roi George IV, avant son accès au trône, était un viril nageur, à tel point que son garde du corps est obligé pratiquement de l'assommer un jour pour le ramener, parce qu'il a eu peur qu'il se noie. Donc, c'était ça. La plage. Et voilà que Stolberg parle du plaisir du bain. Alors, dans la tête des lecteurs d'aujourd'hui, on dit, mais c'est Byron. Byron, c'est plus tard. Et d'autre part, Byron, c'était surtout la nage. La nage, l'exploit de la nage, on a dit qu'il remontait le Bosphore, mais alors les méchantes langues disent qu'il avait un pied beau, je crois, et que c'était peut-être une revanche aussi, hein, de bien nager. Mais ce texte me paraît tout à fait caractéristique de la défense de la poésie comme source d'histoire.
Mais pourtant, c'est Alain Corbin, vous dites que vous ne faites pas tellement confiance au roman, mais et vous dites qu'il ne faut pas confondre la masse qu'il faut distinguer l'individu de la masse, et la poésie, c'est l'affect, ce sont les affects d'une seule personne.
Ah, ben oui. Oui. J'ai pas dit que c'était, qu'il y avait des milliers de gens qui éprouvaient à ce moment-là. Non, mais j'ai dit, voilà quelque chose de possible. Voilà une émotion possible, une émotion qui est dite. On peut penser qu'il n'est pas le seul, parce qu'il y en a, il y a d'autres qui, sans l'écrire, avaient éprouvé ça. Mais cette émergence d'une sensation ou d'un plaisir, ça me paraît un phénomène historique.
Et vous êtes moins méfiant, Alain Corbin, envers Hugo qu'envers Zola. Vous le citez.
Ah, Hugo, Hugo, c'est monstrueux, si vous voulez, dans le bon sens du terme. Il y a tout dans Victor Hugo. Alors, je prendrai par exemple le chapitre qui concerne, vous savez, Jean Valjean passant par les égouts pour sauver Marius. Eh bien, au début de ce chapitre, si je me souviens bien, il y a l'histoire des représentations, une définition de l'histoire des représentations telle qu'elle allait être faite un siècle plus tard. Il y a tout dans Hugo. Et tout. Si vous vous intéressez à l'histoire du vent, par exemple, les tempêtes de Victor Hugo, dans les romans de Victor Hugo, en particulier au début de L'homme qui rit, c'est absolument phénoménal. Alors, il y a tellement... Alors, par exemple, puisque je prends l'exemple du vent, il y a des textes inouïs de Victor Hugo sur le vent. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il rabâche? Pourquoi il se répète? Etc. Il y a des interrogations de Victor Hugo que n'importe quel aujourd'hui, quel individu peut ressentir. C'est presque intemporel par certains côtés, bien des choses de Victor Hugo, mais il a tellement écrit, on ne lit qu'une partie émergée de l'iceberg de Victor Hugo. Alors, c'est très difficile de répondre. Je suis pas un grand spécialiste de Victor Hugo. Il y en a, hein, mais il a ressenti, pour l'histoire des sensations, si vous voulez. Hein. Moi, lorsque je travaillais sur l'herbe, par exemple, c'est quelqu'un... Le dialogue entre le brin d'herbe et l'étoile, etc. Bon, je vais pas trop développer, mais c'est une grande source de la façon dont l'herbe a pu être perçue au XIXe siècle.
Vous avez été tenté, Alain Corbin, par la rédaction d'une fiction?
Non, jamais.
Vous l'avez fait ?
Parce qu'au fond, l'histoire, ça suffit, ça suffit à elle-même. Lorsque j'ai essayé de réfléchir sur le meurtre d'Otfa et le village des cannibales, on a écrit avant et après des fictions, mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Hein. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, de savoir d'où ça venait, ça me paraissait un massacre qui était une relique. Vous savez, que lorsqu'on regarde un western, il y a ce qu'on appelle des monades Knox, c'est-à-dire des grands rochers verticaux qui sont en fait des reliques d'autres formations géologiques qui étaient des plateaux. Eh bien, ce meurtre d'Otfail, c'était pour moi un monade Knox, c'était un massacre qui évoquait des massacres antérieurs, très lointains, du 18e, etc. Donc, l'historien qui se penche sur ce type de choses n'a pas envie d'écrire un roman.
Mais vous avez écrit une espèce de fiction. Ce sont les conférences de Marterolles.
Oui.
Et vous imaginez les conférences qu'a faites un instituteur. Oui. Vous n'avez pas le texte, vous avez le thème des conférences et vous les pastichez, vous les écrivez
oui,
à sa place.
Oui, alors ça, c'est... Si vous voulez, d'abord, ça, c'est Limousin, je connaissais bien, je m'étais posé la question de l'alphabétisation, du progrès des connaissances dans la population limousine. Et en particulier, une chose qui m'intéressait beaucoup, c'était l'idée que, à un temps donné, là c'est 1896, à un temps donné, dans un même auditoire, il y a des gens qui ont été à l'école dans les années 30, des gens qui ont été à l'école dans les années 60, des gens qui ont été à l'école dans les années 90. Ils écoutent la même conférence, ils n'ont pas du tout le même bagage, et ça, on n'y pense jamais. Hein, on n'y pense jamais. Alors, lorsque j'ai, par hasard, rencontré un document sur lequel cet instituteur de la commune de Morterolles, que je connaissais bien, avait eu un auditoire, avait répondu d'ailleurs à une injonction du ministère, mais assez rarement, les instituteurs n'obéissaient pas. Mais lui avait obéi, avait fait toute une série de conférences, en 1896, donc, et je connaissais le thème, parce que la presse avait indiqué le thème de ces conférences. Alors, les archives que je connaissais bien m'ont donné énormément de renseignements sur ce monsieur, sa femme qui était institutrice, la bibliothèque scolaire qu'il dirigeait, les fêtes qu'il avait organisées. Enfin bref, j'ai essayé de reconstituer l'atmosphère de l'école, premier temps. Deuxième temps, les conférences en pensant à cette multiplicité des auditoires. Il y en a qui sont capables d'entendre des choses, d'autres un peu, d'autres pas du tout, ou presque pas du tout. Et donc, comme j'avais le titre des conférences, je me suis amusé, hein, simplement, à reconstituer. Et une chose que je n'ai jamais dite, c'est que j'ai été faire une conférence dans la même salle. Dans la salle, j'ai été donc, c'était en 2012 ou je ne sais plus, faire une conférence sur ça, dans la salle où il enseignait, il restait pratiquement intact, elle a juste été repeinte. Donc il y avait à peu près le nombre d'assistants qui était celui de, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait écouter Monsieur Beaumort, t'appelais. Et quand je rentre dans la salle, il y a une dame, une vieille dame, qui me dit voilà, j'ai retrouvé des cahiers de mon père qui était l'élève de Monsieur Beaumort. Et donc, ça, c'était la réalité. Et j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai vu, il avait fait une conférence sur la patrie, et j'avais inventé une de ces conférences sur la patrie. Alors, j'ai lu, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, sa propre conférence réelle, pour la confronter à la mienne.
Et alors?
Eh bien, j'ai trouvé que j'étais bon. Que j'avais bien retrouvé le ton, etc., à une exception près, c'est que j'avais été moins net. C'est-à-dire que la patrie, il fallait pouvoir mourir pour elle. Il a été beaucoup plus carré dans ce...
Beaucoup plus radical.
Beaucoup plus radical dans cette nécessité de savoir mourir. Moi, j'avais mis un petit bémol quand même, ouais, parce que j'avais eu peur quand même d'exagérer. Mais ça a été quand même une émotion de voir ce cahier de M. Beaumont alors que j'avais inventé ces conférences.
Il y a
aussi... ce qu'on appelle l'histoire de la forgerie, je pense que c'est une forme d'histoire. Vous savez, il y a l'Uchronie, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si la France avait gagné la guerre de 70, etc. Mais cette forgerie, c'est aussi, c'est aussi intéressant parce que je savais qu'il y avait à peu près, je connaissais le nombre de gens, d'auditeurs aussi, hein, j'avais des chiffres d'auditeurs des conférences de M. Beaumort. Voilà.
Ça s'appelle l'histoire de la forgerie?
Je crois que c'est ouais. Ça, mais je suis pas spécialiste.
Le fait de reconstituer. Non,
on m'a dit ça, que ce que j'avais fait, c'était ça. J'avais forgé, en quelque sorte, hein. Quelque chose qui. C'est pas de l'iroman historique.
C'est pas du pastiche, parce que vous n'avez pas les textes d'émission.
Oui, c'est essayer de. Mais je connaissais quand même bien la région. Que je connaissais bien l'école de la région. J'avais fait une cinquantaine de pages sur ce sujet. Voilà, j'étais quand même prêt à pouvoir faire une conférence sur la nécessité de la patrie, de travail.
Alain Corbin, quelles sont, d'après vous, les ruptures épistémologiques apportées par quelques historiens relativement récents?
Ah, ça c'est difficile. Je vous ai dit que j'avais été beaucoup imprégné par Lucien Febvre. Ensuite, il me semble que Georges Duby a été aussi quelqu'un qui est très, très prégnant. Robert Mandroux, voilà, cette période des années 60, l'histoire psychologique de Robert Mandroux, ces années 60-70, c'est une rupture, oui, il me semble, hein, importante. Ensuite, l'histoire des représentations.
Il
y a des gens qui ont réfléchi, il y a des épistémologues, je pense à Roger Chartier, par exemple. Oui, le fromage et les vers aussi, de Carlo Ginzburg, c'est une autre trace, les traces. Sa réflexion sur les traces, c'est une autre, peut-être une autre étape. Jacques Le Goff aussi, hein, cette notion de, je suis revenu assez souvent sur l'idée des épaves de culture, là. Mais il y a bien d'autres choses sur des dérivants de Jacques Le Goff et de ceux qui ont travaillé avec lui comme Schmitt sur son histoire des gestes, par exemple. Voilà des tournants. Alors vous allez me dire, mais alors et Brodel, bon, je suis pas certain qu'il n'ait pas été quelque peu surfait. Oui, pour l'histoire géographique, en quelque sorte, la Méditerranée, hein, bien sûr, et puis tout l'économie monde, mais c'est pas du tout dans la perspective que je viens d'indiquer, et qui va de l'histoire de Duby, Mandroux, à l'histoire de Ginzburg ou Jacques Le Goff. Hein.
Et Robert Mandroux et Lucien Febvre, si vous les trouvez si importants, est-ce que dans votre cas, c'est aussi parce qu'ils ont ouvert la voie de l'histoire
je l'exagère peut-être un petit peu, mais il se trouve qu'en 1954, j'étais étudiant à Caen, il y avait là un professeur de Moyen-Âge extraordinaire, Michel Deboire, qui nous faisait lire ça, dès 1954, les annales, Lucien Febvre. Donc j'ai été assez, mis dans cette voie, placé dans cette voie par ces professeurs assez jeunes. J'avais 19 ans, quoi, si vous voulez. Et je me souviens qu'avec un de mes camarades qui, comme moi, préparait l'agrégation, c'était à ce moment-là, 20 ans, 21 ans, on se disait, c'est ce type d'histoire qu'on va faire. On avait été convertis assez tôt, donc lorsque j'ai lu ensuite dans l'histoire à ces méthodes, qui était un grand volume de l'article de Georges Duby sur l'histoire de la représentation, ça m'a aussi incité à faire ça avec, voilà.
Est-ce que les lieux de mémoire dirigés par Pierre Nora,
j'ai fait un tout petit truc dedans, hein, comme tout le monde, j'allais dire, tout le monde.
Mais est-ce que vous les mettez dans cette liste de ruptures épistémologiques?
Moi, ça ne m'a pas... Il y a tellement de contributions qui peuvent influencer, hein, évidemment. C'est un monument, ça, c'est autre chose. C'est une sorte de construction de rassemblement, hein, parce qu'il y a au moins 200, je sais pas, ou 150, ou...
Je crois que c'est 180 et quelques.
Voilà, donc, que voulez-vous que je puisse dire? Il y a évidemment, articles que j'ai particulièrement goûté, mais c'est tout.
Et l'histoire mondiale telle qu'elle se fait maintenant. Alors, il y a l'histoire mondiale de la France, mais il y a l'histoire mondiale de la piraterie, l'histoire mondiale...
Oui, alors l'histoire mondiale, j'ai d'ailleurs participé à celle de Fayard, sous la direction de Sylvain Venner. Hein. Je pense que l'élargissement, ça c'est plutôt dans une perspective brodélienne, mais l'élargissement, sortir de l'impression que tout vient de la France, que de l'Europe, etc., et qu'il y a des je sais pas, aussi bien la Chine maintenant, hein, et tout extrêmement. Moi, je pense que cette respiration est sans doute un des éléments novateurs aujourd'hui de l'histoire, hein, les lointains. C'est quelque chose. Qui me paraît effectivement extrêmement important.
Merci pour toute cette semaine d'entretien, Alain Corbin. Non,
mais c'était un plaisir pour moi.
De cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Alain Corbin. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, prise de son Yann Frissi. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.